Bon, on sait que c'est pas original comme titre, mais on économise notre créativité pour le contenu. Voici Marceau le midi avec Marceau et Pascal CV.
Midi 37, c'est 11 degrés sur Québec, c'est plein soleil. Il y a plus de lumière qu'hier, on va se le dire, ça fait du bien. Ensoleillé pour aujourd'hui, maximum de 13. Demain, mercredi, alternance de soleil et nuages avec des probabilités d'averse en après-midi à 30 %. Jeudi, ce sera nuageux avec un maximum de 12. Et vendredi, nuageux, maximum de 13 degrés. En vous rappelant la belle victoire des Chiefs de Kansas City, 26 à 13 sur les Saints. On avait raison hier.
Oui.
Et notre expert foot avait tort. C'est tellement rare que ça arrive, je pense qu'il faut le mentionner.
Mais je trouve ça très insultant que tu me mettes dans la même catégorie que toi, je te rappelle.
Oui, mais je savais que moi, que les Chiefs allaient gagner.
Dans le pool.
J'ai confiance en Pat Mahomes.
Oui, j'ai pas l'espoir de Pascal qui dit les Chiefs. Le pool est très jouable. C'est vraiment fluide en ce moment dans les victoires. Là. Il y en a plusieurs qui se disent experts dans le pool de Boulevard 102-1 et se ramassent en 15e position.
NHL, des matchs à surveiller aujourd'hui. Le Kraken qui affronte les Blues, c'est à 16h30, donc un match très tôt en après-midi. Il y en a qui vont aimer ça. Moi, j'aurais pas le temps de me rendre à la maison, bien entendu, mais sinon, je vais être très attentif ce soir pour le match entre les Bruins et les Panthers qui va débuter à 19h et le match en fin de soirée à 22h, un peu tard, vous me direz, les Blackhawks. Connor Bedard qui affronte l'Outa, donc premier match de l'histoire de l'Outa. Ça va être intéressant à voir aussi si vous êtes debout jusqu'à cette heure-là. Antonine Iaccarini, chroniqueuse politique, analyste politique, est au bout du fil. Salut Antonine.
Allô Yannick.
Comment la CAQ va être capable de se relever de, des intentions de vote? Moi, je regarde ça actuellement à Québec. Là. La plupart des députés de la Coalition Avenir Québec perdraient leur poste s'il y avait des élections demain matin. Tantôt, on a parlé avec Denis. Puis on cherche quels lapins qui vont sortir de leur chapeau pour que les gens disent « Ah, finalement, la CAQ, c'est pas si pire que ça. Je vais changer mon vote que j'avais mis pour un autre parti puis je vais revenir avec la CAQ. » Ils vont faire quoi?
Hey, c'est la question à 1000$. Je savais pas que tu allais me poser cette question-là.
Ils vont trouver quoi? Denis Gravel a dit qu'ils vont ramener la Nordique Nation.
Ah ben là, s'ils ramènent les Nordiques, là, c'est sûr que ce serait un excellent coup, mais je serais assez surprise.
Et on serait très stupide. Et on serait très stupide, là. Il faut se rappeler. On a un devoir de mémoire, là.
Ben, on serait stupide d'y croire? Ou
non, on serait stupide de faire « Ah, la CAQ à cause des Nordiques. » Moi, ça, je décrocherais.
Là, ça serait quand même un bon coup, là, Pascal. Là.
Mais je décrocherais qu'au niveau des votes, on soit très, très heureux du retour des Nordiques, qu'on oublie le reste et qu'il y a beaucoup plus que le culturel en politique. Là.
Je ne penserais pas que ça ait un grand impact en dehors de la région de Québec. Là. Soyons honnêtes, là, on se parle entre nous autres de monde de Québec, mais effectivement, ça serait sûrement pas suffisant. Quand on regarde le site Québec 125, je vous invite à aller voir les projections de sièges. Effectivement, là, on voit que dans les derniers sondages, que ça donne comme projection, c'est 18 sièges pour la CAQ qui sont encore, que la CAQ réussit à garder. Fait qu'effectivement, la situation n'est pas évidente. Moi, je ne pense pas que la CAQ peut sortir un lapin de son chapeau qui va tout régler. C'est pas vraiment la plus grosse probabilité. Par contre, la politique, c'est un jeu qui est un peu complexe, qui est mathématique aussi. Puis la CAQ pourrait profiter si les autres vont moins bien, parce que là, la situation qu'on a dans les sondages actuellement, c'est un PQ qui est très fort.
Ouais.
C'est sûr que de se maintenir jusqu'en 2026 aussi fort, c'est un bon défi pour le PQ, qui est une petite équipe avec peu d'employés. On le sait déjà que ça va être un peu compliqué. Le PQ a promis aussi un référendum dans le premier mandat. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais il y a quand même pas une majorité de Québécois là, quand on les sonde sur la question de l'indépendance qui sont favorables à l'indépendance du Québec. Donc, tu sais, il n'y a rien de gagné pour le PQ comme tel. Après ça, ben il y a le Parti libéral, parce que ça va pas très bien le Parti libéral depuis plusieurs années. On sent une grande déconnexion avec l'électorat francophone qui nous semble vraiment une longue traversée du désert pour le PLQ. Mais comme on disait, les choses peuvent changer assez rapidement, puis les gens, des fois, malheureusement, ont la mémoire courte. Moi, je pense qu'un chef qui arrive à la tête du PLQ avec un message économique, avec un positionnement de centre-droit, peut profiter d'un momentum qui fasse bouger les plaques tectoniques des partis politiques, puis qui peut aller, des fois, changer la dynamique. Donc, il y a beaucoup d'imprévisibles jusqu'à la prochaine élection, mais une chose est sûre, c'est pas facile pour un parti qui est au pouvoir depuis 6 ans de remonter. Là-dessus, si on doit gager avec le même chef, parce que là, c'est M. Legault, qui a une longue lune de miel, mais peut-être que M. Legault pourrait décider de céder sa place à quelqu'un d'autre avant la prochaine campagne électorale. Donc, c'est tous les éléments qui pourraient être mis dans la recette et qui pourrait donner d'autres résultats de sondage.
Est-ce que Legault, en parlant des demandeurs d'asile là, à la grandeur du Canada, parce que le Québec en a accueilli beaucoup trop selon eux, est-ce qu'il gagne à parler de ça en disant « là, on en a accueilli beaucoup trop, beaucoup plus qu'on est capable de les absorber, il faudrait les domper », alors que ça va complètement à l'encontre de la Charte des droits et libertés du Canada, puis la Charte du Québec aussi. Il peut-tu essayer d'aller chercher comme une certaine partie de la population avec cette idée-là qui est un peu loufoque là, de déporter des demandeurs d'asile?
Ouais, puis je sais pas si effectivement c'est applicable comme politique, mais c'est certain que l'inquiétude face à une entrée considérée trop massive de demandeurs d'asile dans les dernières années, ça résonne là, dans la population. C'est certain que l'inquiétude, elle est là et que ça réagit très fort médiatiquement. Quand on aborde des enjeux plus identitaires comme ceux-là, souvent, veut pas, la plupart des chroniqueurs, des médias sont plutôt à Montréal. Il y a moins de, j'ai envie de dire, de sympathie face aux idées identitaires de la CAQ dans le milieu comme tel. Il y a toujours un gros backlash, des grosses réactions face à des politiques d'immigration, les politiques de laïcité, même les politiques pour la langue française. Donc, je suis pas vraiment surprise de voir que ça réagit beaucoup, mais j'ai l'impression que monsieur, madame, tout le monde et la majorité silencieuse, sans être d'accord avec le concept de déportation, ça, c'est en plus un choix de mots qui est
épouvantable.
Non, particulier, on va dire ça comme ça, mais on sent quand même que l'inquiétude, elle est là. On a vu l'année passée, la commission scolaire de Montréal, le centre de services scolaires de Montréal, dire qu'on doit ajouter beaucoup de nouvelles classes pour répondre à la demande de tous les enfants là, liés aux vagues de demandeurs d'asile qui arrivent présentement au Québec. On voit que nos services publics sont mis sous pression aussi. C'est pas seulement à cause des demandeurs d'asile. On s'entend qu'on a des problèmes nous-mêmes. T'sais, on n'a pas besoin des immigrants, des demandeurs d'asile pour avoir des problèmes avec nos services publics. Et la crise du logement n'est pas seulement due au flux migratoire. Il faut s'entendre là-dessus. Mais quand même, on est face à des difficultés où notre capacité d'accueil, de plus en plus de gens constatent qu'elle est atteinte. Puis M. Legault, il va trop loin, il pousse trop fort, mais c'est qu'il est seul en ce moment à pousser vraiment là-dessus parce que son message n'est pas relayé beaucoup à Ottawa et le niveau d'ouverture de Justin Trudeau face à ces enjeux-là est minime et le niveau de proactivité du fédéral est de zéro. Là.
Parce que,
pour réussir à les intéresser, ouais. Là, il a fallu embrasser. Là,
parce que sur la fond, je suis d'accord avec François Legault. Effectivement, on a atteint notre capacité pour ce qui est des demandeurs d'asile, puis on est capable de fournir à la demande. On n'est même pas capable de les loger. Donc, de dire au Canada, ça serait-il possible d'en recevoir quelques-uns, c'est pas mauvais, mais j'ai l'impression que dans l'Ouest canadien, c'est un peu perçu comme si on était des racistes. Là. Je veux dire, déporter des demandeurs d'asile. C'est la première fois de ma vie que j'entends parler de ça au Canada. Ailleurs, c'était peut-être dit souvent, mais
ça
chez
fait très
nous,
politique, ouais. Qu'on a plus ou moins apprécié aux États-Unis dans les dernières années, qui a été décrié à l'international, puis que nous-mêmes, au Canada, on a décrié.
C'est ça. Je me souviens de la déportation des Acadiens.
Oui, mais tu sais, on a déraciné des gens qui ouais. vivaient là depuis des générations, de les envoyer à l'autre bout du continent. T'sais, on s'entend que, moi, j'aime pas trop ces comparaisons-là, mais le choix de mots est important, parce ouais. que de mieux répartir les demandeurs d'asile, en se souvenant que c'est des personnes humaines, hein, c'est pas des pions là, puis des colonnes de chiffres, ce sont des humains. Mm-hmm. Moi, je pense qu'il y aurait moyen de faire mieux. Le niveau d'ouverture dans le reste du Canada, on peut bien nous trouver racistes s'ils le souhaitent. C'est business as usual, là, je veux dire, c'est comme ça qu'ils nous perçoivent de toute façon avec notre vision du vivre ensemble, qui est assez différente de la leur, mais qui fassent leur part. Alors, si nous, on est des racistes, des intolérants, ils devraient être plutôt favorables au fait de mieux répartir les demandeurs d'asile. Or, il n'y avait pas beaucoup d'ouverture hein, chez les premiers ministres dans le reste du Canada. Puis Mark Miller, qui est le ministre fédéral de l'immigration, sa réaction face à des premiers ministres qui ne voulaient pas en faire plus dans le reste du Canada, c'était de les traiter de nono. C'est ça qu'il a dit dans les médias. Donc, merveilleux dialogue, présentement au Canada, sur la question des demandeurs d'asile. Oui, le choix de mots de notre premier ministre est peut-être pas super, mais c'est quoi la solution, là? C'est à l'heure actuelle, il y a personne qui nous propose une solution. Le Québec crie seul en disant on a un problème, c'est trop pour nous, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis il y a personne d'intéressé à vraiment rendre service au Québec pour la question des demandeurs d'asile. Puis ce qu'on a comme réponse, c'est vous êtes donc bien intolérant. Donc là, il va falloir qu'on trouve des solutions, là.
Le chef du Parti libéral du Québec par intérim, Marc Tanguay, est de passage dans nos studios ce matin avec la gang de Rage Against le matin. Et lui considère que François Legault parle des deux côtés de la bouche. J'aimerais te faire entendre un extrait.
parce qu'il y en a la moitié qui ont dû avoir une autorisation du Québec qui a été donnée par Québec. Alors, la moitié de l'immigration temporaire, Québec, au départ, a, même plus que la moitié, a son mot à dire. En ce sens-là, François Legault a un discours de façade, mais par en arrière, il n'est pas fou à temps plein. Je veux dire, il est capable de reconnaître qu'on a besoin d'entreprises, de travailleurs étrangers temporaires dans nos entreprises, dans nos services publics. Alors, en ce sens-là, lui, il voit ce besoin-là, mais des temporaires, il en a rentré à coups de dizaines de milliers sous François Legault, puis c'est lui qui les a autorisés. Alors,
est-ce que François Legault est en train de couvrir ses erreurs?
C'est intéressant, hein, cette question-là, parce que on, sur la scène politique et dans les médias, ce qu'on entend, c'est les temporaires. Okay? Mais il y a plusieurs catégories d'immigrants temporaires. Plus, c'est un peu compliqué, je vais essayer de rendre ça simple. Il y a les étudiants internationaux, il y a les travailleurs étrangers temporaires et il y a les demandeurs d'asile. Et les demandeurs d'asile, ce sont eux qui se présentent ici, soit par les aéroports ou précédemment par le chemin Roxham. On se souvient que ça arrivait beaucoup par le chemin Roxham il y a quelques années avant qu'on ferme le chemin. Eux, ils se présentent sur place et demandent l'asile. Donc là, on doit leur donner certains services en attendant de décider si ce sont des réfugiés. Et il y en a une partie qui vont être reconnues comme des réfugiés, une partie qui ne vont pas être reconnues comme des réfugiés. Ça, c'est les demandeurs d'asile et c'est ça le flux là, très intense qu'on a depuis plusieurs années. Les étudiants internationaux, c'est effectivement des étudiants qu'on leur accepte de faire venir, à qui on donne des visas, à qui on donne les certificats d'autorisation du Québec pour qu'ils viennent étudier dans nos établissements d'enseignement. Ça, ça fait partie de l'immigration qu'on planifie. Ça fait des immigrants, je peux parler comme ça, qui obtiennent des diplômes du Québec, qui, lorsqu'ils font leur demande d'immigration, ça fait plusieurs années qu'ils se sont intégrés. Donc, c'était une source d'immigration très intéressante pour le Québec. Mais là, on les met dans le même panier qu'on dit les temporaires. Puis après ça, les travailleurs étrangers temporaires, on a certains secteurs de notre économie qui sont très dépendants parce qu'on n'arrive pas à pourvoir ces emplois-là avec des citoyens canadiens, avec des résidents permanents du Québec. Donc, on fait venir des travailleurs. Les entreprises doivent prouver qu'ils sont incapables d'embaucher des Québécois, là. Puis là, on leur dit, oui, vous pouvez faire venir des travailleurs étrangers temporaires dans certains secteurs, comme l'agriculture, par exemple, ou la transformation alimentaire. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'avec le flux de demandeurs d'asile qui est très élevé, peut-être qu'il faut tout repenser ça. C'est-à-dire que de choisir des travailleurs pour répondre à des besoins économiques, moi, je pense pas que c'est irresponsable de la part du gouvernement de faire ça dans les dernières années, dans un cas de pénurie de main-d'œuvre. Mais maintenant qu'on n'est pas capable de réduire tant que ça le flux de demandeurs d'asile, parce que c'est couvert par des conventions internationales en passant, là, demander l'asile, c'est pas quelque chose qu'on peut dire maintenant ici au Canada, on fait plus ça, là, ça n'arrivera pas. Donc, est-ce qu'au lieu de faire venir des travailleurs étrangers temporaires, maintenant, on va donner des permis de travail à des demandeurs d'asile puis essayer de créer des synergies entre les catégories d'immigration plutôt que les traiter en silo comme on faisait dans les dernières années? Mais retenez seulement que le système est un peu brisé, là. T'sais, on a une immigration qu'on essaye de planifier pour répondre à des besoins économiques et ouais. Tout ça. Et on a un flux migratoire qui rentre sans aucune espèce de contrôle. Puis là, on passe des mois à planifier l'immigration permanente pour des seuils qui sont beaucoup plus bas que ce qu'on reçoit en immigration temporaire. Et l'immigration temporaire, puis Marc Tanguay le disait ce matin en entrevue, elle ne fait pas partie de la planification. Donc, voyez-vous qu'il y a quelque chose qui ne marche pas en ce moment?
Puis, Antonine, je parlais avec Jean-Yves Duclos la semaine dernière. Pascal était avec nous, puis on lui parlait des permis de travail pour les demandeurs d'asile. Lorsqu'ils traversent les lignes, bon, ils sont rendus chez nous, le chèque d'aide sociale arrive rapidement. Le premier chèque, je pense que je suis pour ça. Il faut que ces gens-là puissent s'installer puis installer leurs enfants et tout ça. Mais j'aimerais que le permis de travail arrive plus rapidement. Dans la tête de M. Duclos, ce serait 2 mois le permis de travail qui serait octroyé aux demandeurs d'asile, alors qu'il y a des gens qui nous ont écrit, qui travaillent justement sur ces dossiers-là, qui mentionnent que ça prend encore 12 mois à ce stade-ci pour leur donner leur permis de travail. Donc, j'avais demandé à Duclos, ce serait pas possible de faire le contraire, c'est-à-dire, bon, le premier chèque, oui, pour aider, mais par la suite, le permis de travail devrait arriver très rapidement. Et lui s'est défendu en me mentant, là, quoique lui, c'est peut-être l'information qu'il y a, en disant non, c'est juste 2 mois, alors qu'il y a des gens qui ont écrit, un peu, je suis avocat, moi, c'est encore 12 mois, là.
Ouais, ben c'est ça. Les processus sont vraiment pas agiles. On sait, Immigration Canada, le ministère de l'Immigration du Québec a ses enjeux également, mais il a fait tout un travail dans les dernières années pour améliorer ses processus et réduire ses délais. Mais maintenant, du côté fédéral, c'est extrêmement difficile dans la machine Immigration Canada. C'est très long. des processus qui n'en finissent plus. Puis là, c'est pas seulement pour les permis de travail, là. Parce que tantôt, je vous parlais des demandeurs d'asile qui attendent de savoir s'ils vont avoir leur statut de réfugié. Ouais. Des fois, ça peut prendre jusqu'à 3 ans. Donc, imagine, toi, tu t'installes ici, là, puis après 3 ans, on te dit non, finalement, il faut que tu partes. C'est ça aussi, c'est inhumain. Oui. On parle de transférer des gens du Québec vers le Manitoba, puis on trouve ça inhumain. Imaginez d'avoir le temps de s'installer pendant 3 ans, d'avoir tes enfants ici à la limite, puis de devoir repartir après. Il faut améliorer les processus d'immigration, ça n'a pas de bon sens.
Puis si c'est la valeur économique là-dedans qui fait réagir les gens au-delà de celle humaine, ben on peut aller avec l'argument aussi que c'est des gens qui ont, pour qui l'État a investi un certain montant pour assurer qu'ils soient logés, intégrés dans un travail, formés en conséquence, qui aient peut-être été aux études et autres. Puis, de toute manière, si on les renvoie, on va avoir un besoin de personnel, on va avoir un besoin d'immigration à un moment, puis ça se peut qu'on ait à recommencer à zéro. Tu sais, moi, je suis en train de réfléchir à tous les arguments actuels qui pourraient convaincre quelqu'un à au moins se pencher sur la question. Là. Si l'humain ne va pas vous chercher, là, ce qui serait
fascinant. C'est ça. Il y a des arguments humains, il y a des arguments économiques. Je suis pas tout d'accord avec toi. Et là, je vais lancer un pavé dans la mort. Là, parce que dans les dernières années, on était en pénurie de main-d'œuvre. Mais disons là, qu'on s'en allait vers une récession ou des taux de chômage plus élevés. Qu'est-ce qu'on va faire là, avec ce système d'immigration-là qui fonctionne pas puis qui n'arrivera pas nécessairement à remplir des besoins? Déjà qu'on est en pénurie puis que Justin Trudeau pense que les gens s'en vont magiquement dans les régions, dans les entreprises qui ont besoin de staff. C'est pas de même que ça marche en passant. Là. Les gens vont majoritairement où ils connaissent déjà des gens, donc beaucoup à Montréal. Fait que quand on dit qu'il y a plein de monde en région qui ont besoin de personnel, ben c'est pas vrai que les demandeurs d'asile arrivent et s'en vont sur la Côte-Nord pour travailler dans l'usine que tu penses que ce serait bien dans laquelle il va aller. Là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc maintenant, si les taux de chômage se mettaient à monter et qu'on était en récession, ça continuerait pareil parce qu'on n'a pas réparé le système. Ce qu'il faut réparer, c'est pas juste des questions de nombre, c'est des questions de contrôle, de démontrer à la population qu'on est capable d'avoir une emprise sur ce qui se passe puis sur l'immigration au Canada. Moi, ça me semble un minimum que notre gouvernement nous fasse cette démonstration-là. Puis François Legault peut des fois faire des gaffes, sauf que là, la pression qu'il essaie de mettre sur le fédéral à l'approche d'une campagne électorale, il est seul à le faire. Puis je le répète, là, il n'y a pas de parti fédéral qui relaie ce message-là. Les conservateurs, c'est silence radio. OK, j'ai vu, là, il y a des petites pubs qui passent à la télé ces temps-ci où est-ce qu'ils disent notre système d'immigration est brisé. Là, c'est l'affaire la plus précise que j'ai entendue à propos de l'immigration de la part du Parti conservateur du Canada. Puis même le Bloc québécois, ils ont fait de la gestion de l'offre et des prestations pour les aînés, leurs deux chevaux de bataille pour aller négocier avec le gouvernement Trudeau en échange de leur appui pour les maintenir au pouvoir. Pas l'immigration.
Donc, mais stratégiquement,
moi, j'ai pas d'espoir que ça change.
Ouais, mais en terminant, Antonin, parce que je sais qu'il faut que je te laisse partir, là, stratégiquement, je pense que c'est un bon coup des conservateurs de justement essayer de se sauver de ce sujet-là, parce que si les conservateurs embarquent là-dedans, ça va être les premiers à se faire traiter de racistes. Là.
Aussi, puis de toute façon, quand tu donnes les affaires au Québec, sa question de l'immigration, tu perds des votes en Ontario, c'est quasiment mathématique, c'est
excellent votes point. Ouais.
Donc, stratégiquement, c'est la chose à faire. Mais en attendant, il n'y a personne qui pousse pour nous aider à réparer le système, puis on doit continuer de s'entendre avec Ottawa, puis c'est pas évident. Et avant de finir, Yannick, je voudrais juste vous dire, généralement, je dis pas trop ce qui se passe dans l'envers du décor et de show must go on, c'est un de mes leitmotivs dans la vie, mais je dois vous dire que je fais ma chronique présentement d'un coin de rue sur le plateau Mont-Royal dans mon auto, OK?
Oui.
Et que je suis comme dans un jeu d'évasion, puis je voulais juste vous dire, si vous aviez l'intention de venir sur le plateau Mont-Royal en voiture, on le savait déjà que c'est de la boîte, mais je veux juste vous le confirmer. C'est comme un jeu d'évasion ici, là, je ne sais pas comment je vais faire pour sortir d'ici. J'ai fait ma chronique avec une livraison à côté d'une boucherie portugaise avec plein de bruit. Je vis dans la peur qu'un agent de stationnement vienne me cogner dans la vitre depuis tantôt. Fait que je voulais juste vous donner cet envers du décor. Là,
merci de prendre tous ces risques pour nous, Anto.
Merci, Antonine.
Ça me fait plaisir.
Salut, bye-bye.
Bonne fin de journée.
L'excellente Antonine Iacarini, qui est analyste politique, à qui on aime bien jaser. Ouais, le plateau Mont-Royal, tu as sûrement déjà allé, là. Était en voiture avec toutes les sens uniques. C'était épouvantable. C'est le maire, c'est le monsieur qui est au 98.5 à Montréal maintenant qui t'a dit quoi dire, quoi faire, quoi penser, qui avait décidé ça dans le temps. C'est un cauchemar pour les automobilistes dans ce secteur-là.
Limoilou ne donne pas sa chance non plus ces temps-ci si vous avez à vous y promener.
Y a
parce
plein
que
de
toutes
réparations.
Les rues perpendiculaires sont une rue barrée en ce moment-là.
Oui.
Puis quand tu réussis à passer dans une rue, attelle-toi, il faut que ta suspension soit bonne.
Oui, puis vive Limoilou parce qu'il y a des ruelles. Fait que moi, je coupe par les ruelles, c'est le fun. C'est un peu dangereux, mais c'est le fun. Marceau le midi.